soir, c'est la sixième étude. Donc, je commence avec un document, des textes qui étaient écrits, je cherche le nom, par Jules Lambot Jr. Un extrait de La religion chrétienne, édition Le Phare, en Belgique. Donc, c'est une question, comment est-ce qu'on est arrivé au catholicisme romain quand on a démarré avec le christianisme biblique? Donc, il fait le point. Jésus forma un premier noyau de disciples. Les premières communautés chrétiennes prirent effectivement naissance à Jérusalem en l'an 31 à la Pentecôte. À cette époque, donc à cette époque de la Pentecôte, il n'y avait ni pape, ni clergé. Donc au début, on avait une église de croyants. C'était l'égalité. C'est sûr qu'il y avait des apôtres. Mais il n'y avait pas de pape, de papauté, ni de clergé. Et puis, au fur et à mesure, les chrétiens se sont éloignés. Donc, je vais donner juste les sujets qui se trouvent dans le document de Michel Lambot, et après, on va entrer dans le texte de la lecture. Donc, ce qui arrive, premièrement, c'est la matérialisation du culte. Donc, les symboles que Jésus a donnés, donc le repas du Seigneur et le baptême, deviennent non pas simplement les symboles de la foi, mais commencent à correspondre à la foi, prendre la place de la foi. Après, on a cléricalisation. Donc, on commence à constituer un clergé. Par la suite, on commence à fixer des doctrines officielles. Et si on n'adhère pas à telle ou telle doctrine, on n'est pas considéré comme chrétien. Et on passe d'une église des professants, d'une église de ceux qui disent « je crois en Jésus-Christ » à une église de multitude où tous les gens dans la communauté sont considérés chrétiens, qu'ils soient croyants ou non-croyants. Et à la fin, on passe d'une église libre de l'État à une église d'État. Donc, vous savez bien, à l'origine, donc Jésus, il n'était pas soutenu par les chefs religieux juifs. Il n'était pas soutenu par l'État romain. Les deux, ensemble, l'ont crucifié. Les chrétiens n'étaient pas soutenus par l'État juif, ou enfin par les dirigeants juifs, ni par l'État romain. Mais dans le 4e siècle, donc, le christianisme est adopté par l'État et au fur et à mesure, donc il y a quelques décennies qui passent, mais une fois que ce processus est démarré, à un certain moment, tous les citoyens doivent devenir chrétiens. Et donc, l'Église n'est plus libre de l'État, mais liée à l'État. Donc, ce sont les cinq étapes principales dans la déformation du christianisme. Et là, je quitte Michel Lambot et reviens parler d'autres choses. Et on va revenir sur ces déformations pour terminer la soirée. Donc, je voulais lire un tout petit peu concernant les îles britanniques. Le mouvement missionnaire a gardé une doctrine assez pure en France, donc Gaule, la Gaule, aussi en Grande-Bretagne et vers les Indes. Donc, ici dans les notes de cours d'histoire, ils vont raconter une tradition. Donc, on va la considérer comme une tradition. On va pas l'élever au stade d'écriture, hein. Voilà. Donc, quand les Romains envahirent les îles britanniques 50 ans, environ 50 ans avant Jésus-Christ, sous le règne du roi gallois Cassibelin, ils ne purent conquérir le pays de Galles. Ils furent donc contraints de faire la paix avec les Gallois et cohabitèrent longtemps ensemble. Cette coexistence pacifique fut telle que beaucoup de soldats gallois s'enrôlèrent dans les légions romaines. Et qu'une princesse galloise nommée Claudia se maria avec Pudon de la maison de César. Selon la tradition, ils se convertirent tous les deux sous le ministère de Paul à Rome pendant le séjour, son séjour de environ deux ans, dans la prison à Rome. Leur conversion fut suivie de celle de plusieurs soldats gallois. La tradition veut que Paul lui-même soit allé prêcher au pays de Galles entre deux emprisonnements. On ne peut pas soutenir ça par les Écritures, n'est-ce pas? C'est la tradition qui suggère ça. Nous savons par Tertullien et Origène, donc deux noms que j'ai mentionnés déjà plusieurs fois, que des églises existèrent de leur temps en Angleterre, ce que nous disons Angleterre. Nous savons également que vers l'an 130, une des églises de Rome envoya deux prédicateurs gallois qui s'appelaient Faganus et Damianus, nés au pays de Galles, mais nés de nouveau à Rome. Donc, cette église de Rome les envoya au pays de Galles afin d'assister les frères en ce pays. C'est aussi pendant cette année, 130, que le roi gallois Lucius fut baptisé, étant le premier roi du monde à embrasser le christianisme. Donc, on a le christianisme qui entre très tôt dans les îles britanniques. Alors, plus tard, donc dans le 5e siècle, dans les années 400, il y aura un jeune britannique qui va être amené en esclavage par les Irlandais. Et il va passer 7 ans en esclavage et il va revenir, il va échapper, il va faire un parcours pour revenir en Angleterre. Je dis Angleterre, c'est notre nom pour les îles britanniques. Et il va avoir un appel pour devenir missionnaire chez ses capteurs. Ce jeune homme s'appelle Patrick. Donc les catholiques vont dire le Saint-Patrick et nous allons dire Patrick d'Irlande. Donc Patrick va démarrer un mouvement missionnaire à partir des îles irlandaises, de l'Irlande, et ça va se répandre même sur le continent dans le 4e et 5e, jusqu'en, je pense, 5e, 6e, et jusqu'en 7e siècle, au 7e siècle. OK, donc on va voir ça plus tard. Mais je voulais déjà introduire ça, c'est très tôt que le christianisme est connu dans les îles britanniques. Bon, que cette tradition soit exacte ou pas, on ne sait pas, mais c'est vrai que Paul a évangélisé beaucoup de soldats pendant son emprisonnement à Rome.
C'est sûr.
Oui. Donc là, je vais donner un petit résumé de ce qui s'est passé ou ce qui était l'état de l'Église en 313. OK? Donc, il y a des églises Nouveau Testamentaires. Donc, tous les chrétiens au début étaient des chrétiens bibliques, mais pas des chrétiens parfaits. Donc pourquoi Paul, Jean, Jacques, Jude, Pierre, pourquoi ils ont écrit leurs lettres, leurs épîtres aux diverses chrétiennes et églises? Eh bien, parce qu'il y avait des problèmes. Donc dire que les chrétiens du premier siècle étaient des chrétiens parfaits sera loin de la vérité. Mais nous connaissons la vérité même en lisant le Nouveau Testament. C'est là qui se trouve la foi chrétienne. Donc, les églises sont fondées sur le Nouveau Testament et enseignaient le salut par la foi en Jésus-Christ. Il n'y avait aucune condition requise pour le salut mis à part l'œuvre de la repentance du Saint-Esprit quand une personne accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le salut est une expérience immédiate avec Christ. Il n'y a pas d'intervention, des actes, des rites, des rituels, des choses comme ça. Il n'y a pas d'institution, aucune institution ou œuvre est nécessaire pour être sauvé. L'Église locale est un corps de croyants, né de nouveau, baptisé et qui possède l'Esprit de Christ. Il y avait, à cette époque, deux genres de serviteurs, les anciennes et les diacres. Un parmi les anciennes était considéré le surveillant, donc on dit l'évêque ou le presbytère. Il y avait aussi donc les deux ordonnances du baptême par immersion et la scène. Chaque église était autonome et toutes les églises avaient une autorité égale. Ce qui devient plus évident quand on a l'épître de Clément, donc Clément qui est mentionné dans un épître de Paul. Mais les chrétiens de Corinthe, après le décès de Paul, écrit à Clément de Rome et lui demande son avis sur un thème. Et lui répond, mon avis c'est que. Donc il y a égalité, il n'a pas une manière d'imposer son avis sur les autres. Il leur donne gratuitement son avis, ils sont libres à l'accepter ou le rejeter. Alors, quand on arrive à 313, donc on a déjà parlé de l'hiérarchie et toutes ces choses qui se sont passées à travers les siècles, alors l'Église n'était plus faite du peuple, comme dans la Bible, mais les églises étaient considérées fabriquées ou en faisant ce que les évêques faisaient l'église. Donc elle n'était plus une église locale, mais elle était composée de la totalité, non pas des croyants, mais des évêques. Le salut est administré par l'évêque, qui est le gardien des sacrements salutaires de l'église. Beaucoup déviés, oui. Mais c'est la base de ce qui devient catholique romaine par la suite. Hein? Donc les églises et les pasteurs ne sont pas égaux. Les églises ne sont pas égaux et les pasteurs ne sont pas égaux. Ils ne sont pas au même niveau. Il y a une hiérarchie dans l'année 313. Donc, comment ça arrive? Il y a premièrement le changement dans la nature de la foi. Donc c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, la matérialisation du culte. La foi a perdu son caractère personnel. Ce n'était plus une dépendance totale sur Jésus-Christ. Bien que Christ fît partie du système, la foi était basée sur une institution qu'on appelle Église. Le salut n'est plus le résultat de la régénération opérée par le Saint-Esprit, mais le salut est reçu par les sacrements du baptême et de la scène. Donc c'est déjà dans le 4e siècle qu'on a fait une grande déviation du simple foi. Pour être sauvé, il faut devenir membre de l'Église. C'est exactement ce que Cyprien, évêque de Carthage, voulait dire en 250 quand il s'exprimait en disant que personne ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas l'Église pour mère. Selon la Bible, la seule chose qui soit nécessaire pour le salut, c'est la foi. Mais dans ces églises, cela fut changé. Il fallait obéir à l'institution de l'Église et recevoir les sacrements. Donc pour eux, la foi seule, sans l'Église et sans les sacrements, ne peut sauver. Cependant, l'institution, c'est-à-dire l'Église, et les sacrements peuvent sauver sans la foi, comme dans le cas d'un enfant. Donc on a tout mélangé, parce que c'est une tradition qui s'installe. Donc le culte devient matériel. Le second changement, c'est dans la nature de l'Église. Donc, on a dit tout à l'heure, la cléricalisation. Selon le Nouveau Testament, l'Église est un corps local de chrétiens nés de nouveau. Jésus a dit, là où deux, trois sont réunis à mon nom, là je suis au milieu d'eux. Donc, dans le Nouveau Testament biblique, les dirigeants sont au même niveau que les membres, mais servent parce qu'ils ont reçu des dons précis du Saint-Esprit. Cette égalité des anciens dans l'Église biblique commence à disparaître dans les églises hiérarchiques. Donc, voilà, une Église biblique élit un pasteur, va élire un pasteur. Ben, si le pasteur ne correspond plus aux besoins de l'Église, aux souhaits de l'Église, aux doctrines de l'Église, eh bien l'Église, c'est-à-dire la congrégation des croyants, va virer le pasteur. Mais dans le nouvel système qui a été instauré, donc on peut s'en passer des croyants, parce que c'est plus les croyants qui donnent la place au pasteur, ça vient de l'extérieur. Ok? À la fin, ce soir, très tôt au deuxième siècle, donc c'est dans les années 100 quelque chose, 130, 140, 150, un des anciens, donc dans une ville, il y a beaucoup de lieux de culte, et chaque lieu de culte a un ancien, donc on va dire un pasteur. Très tôt, dans le deuxième siècle, un des anciens dans une ville a commencé à être le chef ou le président au-dessous des autres. Bon, on comprend quand il y a toutes les persécutions et c'est premièrement les pasteurs qui sont attrapés et tués. Donc, on va dire que ben, un tel a été enseigné par un tel, donc il connaît mieux la doctrine biblique que nous, donc on va faire référence à lui. Et puis par la suite, on fait référence à lui, puis on fait référence à celui qui l'a enseigné, etc. Donc, on voit naturellement comment ça peut se passer. À la fin du deuxième siècle, il y avait quatre échelons dans la hiérarchie. L'évêque, les anciens, les diacres et le peuple. À la fin du deuxième siècle, il y a quatre échelons dans la hiérarchie. L'évêque ou pasteur, les anciens, les diacres et le peuple. Bon, attention, je vais vous relire les notes d'une église biblique. Il y avait deux sortes de serviteurs, les anciens et les diacres. Parmi les anciens, il y avait le pasteur ou l'évêque qui avait la surveillance. Il y avait aussi, les diacres. Donc, dans les églises bibliques, il y avait, dans une ville, il y avait les anciens. Mais nous comprenons que les anciens étaient aussi appelés pasteurs. Mais dans les notes du cours, on dit qu'il y avait un surveillant, donc le pasteur, et il y avait les anciens, et il y avait des diacres, mais évidemment, il y avait aussi le peuple. Donc, quelque part, il y a, depuis tout au début, il y a cette distinction de termes, mais pas une distinction d'autorité.
Mais on peut voir comment chaque groupe a pris une autorité différente.
Voilà. Donc, c'est dans la racine. Et c'est pour cela qu'on dit que Dieu est contre le nicolaïtisme. Donc le nicolaïque qui veut opprimer le peuple. Laïque, laïte étant le peuple. Et normalement, bibliquement, donc c'est le peuple qui gère les doctrines, qui gère l'association locale de la foi. Et c'est pas le pasteur qui est le gérant de la foi, c'est tout le monde. Donc, quand le pasteur dévie de la foi, le peuple vire le pasteur et c'est pas le pasteur qui vire le peuple. OK? Bon, ça, c'est extra, superbe, supplémentaire. Je retrouve ma place dans les notes. Ok, je recommence là. À la fin du deuxième siècle, il y avait quatre échelons dans l'hiérarchie, l'évêque, les anciens, les diacres et le peuple. le travail de l'évêque, excuse-moi, le travail de l'évêque est allé au-delà des limites d'une église locale, commençant de nouvelles assemblées dans les autres quartiers de la ville. L'évêque a nommé des pasteurs pour toutes les assemblées, tout en gardant l'autorité. Donc, on peut voir aussi naturellement comment ça peut se faire. Ici à Brive, donc voilà, on démarre une bonne église, ça grandit, et puis on dit, tiens, on va démarrer une autre assemblée dans un autre secteur ou un peu plus loin, d'accord? Donc, c'est de nos membres et de nos ressources que nous allons démarrer cette nouvelle œuvre. Et nous pouvons, dans notre chair, vouloir gérer l'argent qu'on donne à cette nouvelle œuvre. Donc, on dit, tiens, on va dire, Samuel, on t'envoie comme pasteur missionnaire de cette église-là. Et tu vas gérer ces choses-là, mais il faut que tu nous dises comment tu utilises l'argent. Ficelle. Alors, Samuel fait un très bon travail, mais il fait quelque chose que nous n'aimons pas. OK? Donc, on dit, Samuel, on n'a plus besoin de ton service là. On va nommer Nathan. Nathan, tu es le nouveau pasteur là. C'est plus biblique. Parce que ça devrait être ce groupe-là qui gère leurs affaires et non pas ces autres gens ailleurs. Hein? Bon, on voit qu'ils doivent avoir un lien, comme on a lu tout à l'heure, qu'une église à Rome, dans l'année 130, a envoyé deux Gallois aux îles britanniques pour aider les croyants, parce qu'ils avaient peut-être fait des études ou quelque chose, ils étaient au moins dans l'église à Rome, et ils étaient bien instruits, donc ils ont envoyé ces bons croyants pour aider là-bas. Mais il n'y avait pas de lien quand ils les ont envoyés. Hein? Peut-être qu'ils avaient un soutien pour qu'ils puissent fonctionner comme missionnaires, comme moi aussi. Mais il n'y avait pas de lien. Donc, par exemple, mon église qui m'envoie en France, il n'a pas de rapport avec nous ici, à Brive ou à Limoges ou quelque part. Le seul lien, c'est que s'ils trouvent que je ne fais pas mon travail, ils peuvent dire, Billy, tout revient. Mais ça n'a pas de conséquences directes sur les fidèles en France. Mais ici, c'est que voilà, c'est le pasteur ou l'évêque qui envoie le pasteur, qui nomme le pasteur, il garde l'autorité sur les nouvelles assemblées qui sont établies. Parce que c'est une hiérarchie. En l'an 313, il y avait plus de 40 assemblées dans la ville de Rome sous l'autorité de l'évêque. Donc l'église locale a perdu son importance et son autonomie, n'était plus autonome. Et puis aussi l'église est devenue considérée comme une institution qui sauve. Les sacrements sont contrôlés par l'évêque. L'évêque possédait donc le pouvoir essentiel dans l'Église. Et ça aussi entre dans cette question quand l'évêque n'était pas d'accord avec un autre évêque dans une autre ville. Eh bien, il disait, ah, mais le salut dans cette ville-là n'est pas valable. Parce que je ne suis pas d'accord avec celui qui a les clés, quoi. Mais nous, on ne se confie pas aux âmes, hein, on se confie à Jésus. Cyprien dit en l'an 250 que là où se trouve l'évêque, là se trouve l'église, et que là où il n'y avait pas d'évêque, il n'y avait pas non plus d'église. Pour nous, on ne dit pas la même chose. Pour nous, ce que moi je dis, au moins, ça, ce n'est pas du tout biblique. Parce que là, il n'y a plus le peuple n'est plus rien. Donc, comme le pape Jean-Paul a dit, donc il y avait des gens qui faisaient une démonstration, ils voulaient, je ne sais plus, le mariage des prêtres ou quelque chose. Et puis, Jean-Paul, dans une phrase assez, assez rare, il avait dit, Jean-Paul II, il a dit, je vous rappelle que l'Église catholique romaine n'est pas une démocratie, c'est une hiérarchie. Qui veut dire que en haut, on fait les décisions et en bas, on accepte. Hein? Donc ça, c'est cette idée-là. C'est que les évêques qui comptent et le peuple n'est plus pour rien. Bon, encore, quelque part, on peut comprendre la phrase dans la situation des persécutions. Parce que, regarde dans une ville où, on va dire, l'Église est décimée par la persécution. Il n'y a plus rien, quelques croyants. Mais il n'y a pas un pasteur. Donc, est-ce qu'on a toujours une Église? Il y a deux, trois croyants.
Ben oui, ils se réunissent. Ils adorent Dieu entre eux.
Oui, mais est-ce qu'on a une église? On n'a pas une église mature, c'est sûr.
Oui.
Hein? Comme ici, on n'a pas une église. Donc, on peut comprendre ce qu'il veut dire. C'est que, je veux dire, on peut comprendre la réalité de la chose. Quand une église était décimée par la persécution, il y a quelques croyants qui restent. Et si ils n'ont pas un pasteur, c'est comme une église qui est morte.
Mais ils se rajoutent à une autre église ou...
Non, mais là, je parle dans une situation de persécution. Donc, tout le monde commence à se cacher et tout ça. Et y a, le pasteur est mort, une grande partie des membres sont morts. Il y a quelques-uns qui restent. Donc, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, en France ou aux États-Unis? Bon, on va fermer l'église. L'église n'est plus. Non, on parle de l'église locale. L'église locale se ferme.
Oui.
Et on a des églises qui nous soutiennent de temps en temps,
mais
ça se ferme.
Pas pourquoi ça aide la hiérarchie.
Non, j'ai dit qu'on peut comprendre la phrase. Si on n'a pas de pasteur, donc rapidement l'église va se fermer.
Oui.
Donc c'est plus. Il n'y a plus. Donc il, voilà, s'il n'y a pas de pasteur, un évêque,
il
n'y a pas d'église.
Ah, oui.
Donc on peut comprendre dans le sens naturel.
Oui.
Ce que ça peut vouloir dire, mais quand ça est développé à vouloir dire que le pasteur c'est l'Église, et ce que le pasteur dit c'est ce que les croyants doivent croire.
Là,
ça va très loin, très rapide. Ok, tu vois ce que je veux dire? Naturellement, ça peut se comprendre, mais c'est néfaste. Ça ne devrait pas être comme ça. Troisième chose. Il y a un changement dans la nature de l'autorité. La conception du Nouveau Testament, c'est que l'autorité réside dans l'Église locale. Donc, j'ai parlé de ça tout à l'heure. C'est dans le peuple. C'est là, cela a changé jusqu'à ce que ce soit l'évêque qui ait l'autorité finale. Donc, on parlait de ça. Donc, on a parlé de cette chose aussi dans les lettres de Clément de Rome. Donc, quand on lui a demandé quelque chose, donc il n'a pas répondu de manière autoritaire, mais il a donné son avis. Aussi, vers l'an 115, Ignace parlait de l'importance d'obéir aux pasteurs et aux diacres dans l'église locale. Bon, c'est normal. Irénée, 130 à 202, a essayé d'établir une succession historique des évêques de Jésus, de Jésus en passant par les apôtres. Et Cyprien, donc on revient à Cyprien encore, l'année 195 à 258, donc évêque de Carthage, a donné toute autorité à l'évêque. Donc il y a quelque chose de biblique dans l'idée qu'il faut obéir aux pasteurs et aux diacres. Quand leur avis, quand leur conseil est bon, mais pas quand leur avis n'est pas bon. Donc, d'accord, dans un premier pas, mais au-delà de cela, en suivant donc Irénée et puis Cyprien, on va trop loin. On va trop loin. Il y a aussi eu le changement dans la nature du culte. Dans le Nouveau Testament, le culte était principalement, donc on parlait de ça dans la voiture tout à l'heure, dans le Nouveau Testament, le culte était principalement composé de chants, de lectures de la Bible, de prières et de prédications. Donc on va dire, mais où est le repas du Seigneur? Est-ce que vous allez vous souvenir? Le repas du Seigneur était à part. C'était dans l'Agape. Et Paul a dû écrire à Corinthe pour dire que quand vous avez votre repas, donc après le culte ou avant le culte, mais vous êtes toutes là en train de manger, d'autres sont pas encore arrivés, ils ont faim, et certains ont déjà terminé, d'autres sont ivres, et c'est le pagan chez vous. C'était pas la prédication, c'était pas le culte, c'était à part. Donc Paul a dit non, ça va pas, il faut arrêter ce système là. Ok? Au début, le culte était principalement composé de chants, de la lecture de la Bible, de prières et de prédications. Ça, c'est la même chose qui se passait dans les synagogues. Et pour cela, il y a longtemps, j'ai dit que l'Église Nouveau Testamentaire que Paul a organisée était bâtie sur le principe de synagogue. Le chant, la Bible, la prière et la prédication. Il n'y avait pas de rite. L'idée que les sacrements étaient porteurs de grâce a changé la manière du culte. Quand on commençait à penser que les mémorials que Jésus a donnés, donc l'un c'est le baptême et l'autre c'est le repas du Seigneur, que ces choses apportaient des grâces aux croyants, apportaient quelque chose de bien, et quand on commence à croire à ces choses-là, après ça devient important. Ah ben, si la grâce vient à travers le repas du Seigneur, ou que la grâce vienne à travers le baptême, ben, il faut baptiser les gens pour qu'ils puissent être sauvés. Il faut faire le repas du Seigneur pour qu'on puisse être en communion avec Dieu. Pas parce qu'on est en communion avec Dieu. Donc, le presbytère local a eu la même fonction que le prêtre. Parce que les sacrements au pouvoir salvateur exiger des hommes avec des qualifications sacerdotales pour les administrer. En conséquence, le centre de l'adoration a cessé d'être la prédication et fut remplacé par l'observation de la scène comme événement central. On utilisait déjà le mot « messe » qui est le mot latin pour « acquittement ». Donc, vous avez une question là?
Mais ça veut dire?
Acquittement.
Acquittement.
Acquittement. Je ne suis pas lataniste.
C'est pour ça qu'on va à la messe.
Ben, aujourd'hui, on dit que la messe, c'est la perpétuation de la sacrifice du Christ. Donc, nos péchés sont acquittés, payés. Et puis, il y a tout un système. Je ne sais plus le nombre de minutes exactes que le corps de Christ reste dans votre corps quand vous prenez l'hostie. Mais l'Église catholique a défini un certain nombre de minutes spécifiques que Jésus reste physiquement dans votre corps quand vous l'avez reçu. Oui, c'est matérialisation du culte. La nouvelle nature donnée au sacrement a forcément formé des rites. Il y avait des mots, des formes et du matériel qui devait dans l'administration être respecté pour être efficace. Donc évidemment, si quelqu'un n'a pas utilisé les bonnes formes ou les bonnes paroles, ben, ce n'est plus efficace. Donc l'efficacité de ces rituels pour accomplir le salut des hommes ne serait pas là, ne serait pas efficace, donc ne pouvait pas sauver. Mais on voit, ça c'est au début, ça commence comme ça, mais par la suite, on a tout le mécanisme catholique développé. Et puis, donc, quatrième, l'Église commence à avoir des lieux saints, des fétiches saints, comme les ossements des saints, etc., et des jours saints. Dans un effort de gagner les païens, la célébration de Noël fut remportée au 25 décembre, jour du festin romain, scandinave et babylonien. Donc, bibliquement, il n'y a pas de jours saints. pas pour les chrétiens. Pour les juifs, oui. Il y a des jours spécifiques dans le calendrier juif.
Oui, les fêtes juives. Mais c'est pareil, les fêtes juives.
Ils ont rajouté à l'Ancien Testament. C'était des traditions qu'ils ont rajoutées.
Les juifs?
Oui.
Non, non, la plupart sont dedans l'Ancien Testament.
C'est dans l'Ancien Testament, mais. Oui. Avec Jésus. Enfin, ils n'ont pas accepté Jésus, donc ils sont toujours dans leur tradition de fête juive. Parce que ceux qui ont accepté Jésus, bon, tout ça, c'est. Ça peut lieu d'être.
Non. Et donc, voilà, dans le christianisme, il n'y a plus. Il n'y a plus les jours religieux, les jours fériés, pour ainsi dire. Mais c'est avec la tradition, au fur et à mesure, que l'interprétation devient allégorique, on commence à reprendre les choses dans l'Ancien Testament, les adapter au christianisme pour donner des jours spéciaux. Oui. Et en plus, la plupart des gens ne croient pas et quand même ils prennent les jours fériés. Et puis la dernière chose, donc les raisons pour la corruption. Oh, on a déjà parlé des raisons pour la corruption dans l'Église. Donc ça, c'est les choses qui se sont passées. Je vais reviser avec M. Lambot. On a eu une matérialisation du culte, la cléricalisation, la fixation de la doctrine. Non, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais on le verra par la suite. L'Église de professants, donc ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est une profession personnelle de croire en Jésus-Christ, est remplacée par une Église de multitude, que tous les citoyens, tous les gens reconnus citoyens, sont membres de l'Église, qu'ils soient croyants ou pas. Et le symbole d'être membre de l'Église, donc c'est le baptême qui est censé sauver, même si la personne ne croit pas. Et puis l'Église est passée d'une Église libre de l'État à une Église liée à l'État. Et ça, on va voir aussi par la suite.